musique.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 16h ici à Paris, 15h en temps universel.
Gali Bonin.
Journée de deuil national en France en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. Une question sur les lèvres de nombreux élus, est-ce que l'État aurait pu faire mieux? Plusieurs députés remettent en cause le manque de réactivité de Paris. Vous les entendrez dans ce journal. Et la Belgique comptera bientôt 200 jours sans gouvernement. Depuis les élections au mois de juin, les négociations entre les partis piétinent. Une situation qui commence à irriter la couronne belge qui souhaite accélérer le processus. Des Nord-Coréens morts sur le front russe, ce sont les révélations de l'état-major de la Corée du Sud qui suit de près le déploiement des troupes de son voisin. Un premier bilan fait état de plus de 1000 victimes. Au Panama, le bras de fer entre le président du pays et Donald Trump, le président élu des États-Unis, a menacé de reprendre le canal de Panama si le pays ne se pliait pas à ses exigences. Une menace qui a été balayée par son homologue panaméen. Des drapeaux en berne et une minute de silence observée partout en France. C'est une journée de deuil national, 10 jours après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte. Au moins 35 morts, un archipel dévasté et cette question, l'État a-t-il correctement joué son rôle dans cette catastrophe? Une partie de la classe politique en doute fortement, Victorien Villaume.
À commencer par Estelle Youssoufa pour la députée de Mayotte, 10 jours après la catastrophe, non seulement l'accès à l'eau et à la nourriture reste extrêmement problématique, mais également la communication du gouvernement. Elle était l'invitée de RFI ce matin.
Quand le gouvernement parle de remettre de l'eau, c'est de l'eau avec des coupures. C'est quand même gravissime.
L'État français en défaut également vis-à-vis de l'arrivée des secours, affirme Estelle Youssoufa.
Les familles n'ont toujours pas vu l'ombre des premiers secours dans certaines zones les plus reculées. On continue à avoir des gens qui n'ont pas vu un médecin. Et on entend ce discours de l'État ici, comme si les secours étaient en train de se déployer.
On a laissé des gens mourir, les mots très forts de la part de Jean-Hugues Ratenon, député de gauche de La Réunion. Il dénonce un bilan humain qui reste désespérément imprécis.
Le président de la République décrète un deuil national, mais ce deuil repose sur quoi? On n'a pas recensé les victimes. Il est urgent de mettre véritablement les moyens en place.
La catastrophe aurait été mieux gérée si elle s'était déroulée dans l'hexagone, pronostique le parlementaire qui dénonce un deux poids, deux mesures.
Les précisions de Victorien Villaume. Et le cyclone Chido qui a continué sa route sur le continent africain où il a fait des dommages considérables. Le Mozambique compte au moins 120 morts. Aux premières loges de la catastrophe, la province de Cabo Delgado dans le nord du pays. Des images de l'UNICEF montrent des scènes de désolation, cases aux toits de tôles arrachées, palmiers déracinés et bâtiments durs éventrés. Cette région compte la forte majorité des sinistrés avec un demi-million d'habitants qui ont été touchés par le cyclone. Et en Mozambique, toujours, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la victoire électorale du parti historique au pouvoir. Après 2 mois de contestation qui a plongé le pays dans une crise politique sans précédent, une crise qui a fait plus d'une centaine de morts. Et la Belgique, elle, n'a pas encore de gouvernement. Les élections législatives qui ont eu lieu le 9 juin dernier, depuis toujours aucune coalition pour gouverner le royaume. Pourtant, le scrutin avait consacré une victoire de la droite et du centre-droit. Dans ce système politique de coalition, tout portait à croire à des négociations plus faciles qu'habituellement. Et depuis bientôt 200 jours, les tractations s'éternisent à Bruxelles. Jean-Jacques Herry.
Les médias belges n'arrivent plus à compter le nombre de visites effectuées par Bart De Wever au Palais Royal. Celle de vendredi dernier était la 14e selon certains, la 16e disent d'autres, pour celui qui a été nommé formateur en charge des discussions de coalition. C'est à ce titre que le chef de la NVA, les conservateurs flamands, doit rendre compte régulièrement au roi Philippe de l'avancée des négociations entre les 5 partis théoriquement prêts à passer un accord. Autour de la table, les conservateurs du NVA, les chrétiens démocrates et les socialistes côté flamand, les libéraux du MR et les les centristes côté wallon. Et malgré des rencontres quotidiennes, il y a toujours des désaccords entre eux, essentiellement sur des questions budgétaires. Il faudrait dégager 20 milliards d'euros pour assainir les comptes belges, mais avec quelles économies et quelles recettes supplémentaires? C'est toute la question, alors que les libéraux refusent toute hausse d'impôts, quand les centristes et les socialistes rechignent, eux, à faire des économies sur le système de santé fédéral, le droit d'asile ou encore l'assurance chômage. Même si pour le moment on est encore loin du record de 2010-2011 avec 541 jours sans gouvernement, le roi des Belges, lui, semble commencer à se lasser, disant espérer une percée décisive début 2025. Et alors que les négociations doivent reprendre aujourd'hui, nul doute que les téléphones des politiques belges vont chauffer pendant toute la période des fêtes. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
À Gaza, l'hôpital Kamal Adwan affirme être de nouveau la cible de frappes israéliennes. Le directeur craint pour les réserves en carburant et en oxygène et demande une intervention internationale d'urgence. C'est le deuxième appel à l'aide de l'établissement en deux jours. L'armée israélienne, elle, dément avoir visé l'hôpital Kamal Adwan, l'un des deux seuls encore opérationnels dans le nord de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de 58 morts dans les dernières 24 heures. Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, plus de 45 000 personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne. Autre théâtre de guerre, la Russie, où des soldats nord-coréens combattent auprès des troupes de Moscou. Une aide qu'elle paye en armes et en hommes. Pour la première fois, la Corée du Sud dresse un bilan des pertes nord-coréennes. Il y a quelques jours, les États-Unis avaient estimé à plusieurs centaines les soldats nord-coréens tués ou blessés au front. Mais selon l'état-major sud-coréen, ce serait plus, beaucoup plus. Les explications de notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz.
Environ 1100 soldats blessés ou tués en combattant l'Ukraine aux côtés des troupes russes. C'est en tout cas ce qu'a estimé l'état-major sud-coréen ce lundi. D'après les informations de la Corée du Sud, le pays voisin du Nord s'apprêterait à envoyer d'autres troupes en Russie et avec celles-ci du matériel militaire, dont des drones explosifs. En novembre, le leader nord-coréen Kim Jong-un avait ordonné la production massive de ces engins mortels. Toujours selon l'armée sud-coréenne, Pyongyang livre déjà des armes à Moscou. Parmi elles, des lance-roquettes et des canons d'une portée qui peut atteindre 60 mètres. Séoul pense que la Corée du Nord souhaite moderniser ses techniques de guerre avec l'aide du Kremlin. Les deux pays ont signé un traité de défense mutuelle historique qui est entré en vigueur au début du mois de septembre. Pour le moment, ni Pyongyang ni Moscou n'ont confirmé la présence des troupes nord-coréennes en Russie. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Au Japon, deux poids lourds pourraient fusionner pour faire un géant. Il s'agit de Nissan et de Honda qui viennent de signer un protocole d'accord en vue d'une union. Les deux constructeurs japonais souhaitent se regrouper dans une holding, une société fêtière, d'ici août 2026. Un processus qui en ferait le troisième groupe automobile au monde, derrière Toyota et Volkswagen. Nissan et Honda comptent sur cette union des forces pour rattraper leur retard sur le marché des véhicules électriques, largement dominé par Tesla et par les constructeurs chinois. Après la menace, la riposte. Le président du Panama a répondu aux menaces de Donald Trump. Le président élu américain a promis de reprendre le contrôle du canal si le pays d'Amérique centrale ne répondait pas à ses exigences. Il a fustigé les droits de passage imposés sur les navires américains qu'il considère ridicules. Mais le chef d'État, José Raúl Mulino, répond et fermement. Victorien Thomas.
Le pays d'Amérique centrale a la pleine souveraineté sur son canal depuis 1999 après un accord signé avec les États-Unis justement. Un point que Donald Trump semble avoir oublié, mais le président panaméen José Raúl Mulino le lui rappelle dans sa réponse publiée sur X.
En tant que président, je souhaite exprimer clairement que chaque mètre carré du canal de Panama et de ses zones adjacentes appartiennent au Panama et continueront à lui appartenir. La souveraineté et l'indépendance de notre pays ne sont pas négociables.
Et quand le futur locataire de la Maison-Blanche s'inquiète de l'influence grandissante de la Chine sur le passage qui relie les Caraïbes au Pacifique, José Raúl Mulino rectifie.
Il n'existe pas de contrôle direct du canal par la Chine, l'Union européenne, les États-Unis ou toute autre puissance.
Une affirmation claire, le canal est et restera panaméen. À cela, Donald Trump a répondu sur son réseau Truth Social, une menace à peine dissimulée, je cite, « on verra ça ».
En Europe, une tempête de neige monstre paralyse la Bosnie. Dans le nord du pays, des dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. Des équipes parcourent en urgence les régions touchées pour tenter de reconnecter le plus de clients possible au réseau. Sur les routes, le trafic est lourdement perturbé. Selon des instituts météorologiques régionaux, la tempête devrait s'intensifier dans les prochains jours. Jusqu'à 100 cm de neige sont attendus d'ici mardi soir. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci d'avoir été avec nous sur RFI.